Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal de Jocelyne Moussa Oponde.
Calendrier électoral réaménagé au Sénat. La nouvelle liste définitive des candidats retenus sera publiée tout à l'heure à 20h. L'élection et l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement interviendront le lundi prochain. Assainissement de la ville de Kinshasa. L'autorité urbaine sollicite l'accompagnement des services de l'armée. Le gouverneur Daniel Bumba a rencontré aujourd'hui le chef d'état-major général des FRDC. L'invité de ce journal, c'est le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa nous parlera des opérations dans le cadre du mandat de la protection des civils dans le territoire de Djougou. Bonsoir à tous. Au réaménagement du calendrier de l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat, les membres du bureau définitif seront élus et installés le lundi 12 août prochain après audition des messages de campagne des candidats retenus. D'après le nouveau calendrier rendu public ce samedi par le bureau provisoire du Sénat, le bureau de réception des candidatures était ouvert à ce samedi entre 12h et 18h afin de permettre aux différents candidats de retirer et substituer leur candidature. Une nouvelle liste définitive des candidats retenus sera publiée ce samedi même à 20h. La rentrée scolaire 2024-2025 doit être apaisée, si en tout cas le souhait du gouvernement exprimé hier vendredi au Conseil des ministres. Ce souhait fait partie des points essentiels que la première ministre Judith Suminois a soumis à la réunion hebdomadaire du gouvernement afin de trouver des issues favorables pour assurer la prochaine rentrée scolaire. Quelques propositions y ont été formulées, comme nous le dit Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dans son compte-rendu, dont un extrait a été sélectionné par Askin Zigbiataïro.
Dans la perspective d'une rentrée scolaire apaisée dans tous les secteurs de notre système éducatif, la Première ministre a relevé une nouvelle fois la nécessité de la réactivation du processus du dialogue avec toutes les parties prenantes en vue d'une prise en charge par les gouvernements des revendications pendantes. Elle a à cet effet encouragé la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, à organiser dans les prochains jours à Bibois un cadre de concertation avec le parti prenant de son sous-secteur. Les mêmes encouragements ont été adressés à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a institué une commission préparatoire de la commission paritaire gouvernement bas syndical dans son secteur.
Au Nord Kivu, la conseillère du gouverneur de province en matière d'éducation et de nouvelle citoyenneté interdit aux chefs d'établissement, tout réseau confondu, le monnayage, des inscriptions, achat d'uniformes et autres fournitures scolaires pratiques prohibées par l'État congolais. Priska Kamala l'a fait savoir hier vendredi au cours d'un point de presse qu'elle a animé devant les journalistes au gouverneurat de province. Le condensé de cette communication avec Gabriel Wamenia.
Devant la presse, Priska Kamala a formellement mis en garde tout chef d'établissement qui se compromettrait dans ses habitudes interdites par le gouvernement congolais. Il s'agit notamment du monnayage des inscriptions, l'obligation d'imposer aux parents d'acheter les uniformes, les logos de l'école, les fournitures scolaires et tout autre frais exigés malicieusement par quelques chefs d'établissement. Répondant aux questions des journalistes sur le paiement des frais scolaires, Priska Kamala a clairement dit qu'il est aussi interdit au chef d'établissement de procéder au recouvrement des avances et des frais scolaires jusqu'à nouvel ordre. Selon certaines sources fiables, quelques chefs d'établissement des écoles publiques conventionnées et officielles dans la ville de Goma exigent déjà des avances et des frais scolaires. Elle a par la même occasion annoncé des mesures disciplinaires et des sanctions sévères contre tout chef des écoles publiques ou privées agréées qui enfreindrait toutes ces dispositions. Rappelons que la mise en garde de la conseillère du gouverneur intervient après celle faite au chef d'établissement par le président provincial de l'ANAPECO, alors que d'autres chefs d'établissement avaient déjà clôturé les inscriptions des élèves, notamment dans les écoles catholiques.
Toujours au Nord Kivu, dans le territoire de Beni, plusieurs écoles secondaires organisant des options techniques dans la cité frontalière de Kassindi-Loubiria ont enregistré des résultats particulièrement faibles à la dernière édition de l'examen d'État. Selon Tembo Makupi Kisokolo, secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, pour l'antenne de Kassindi, ces échecs sont attribués à l'inadéquation des programmes scolaires. Il recommande aux inspecteurs de l'enseignement de fournir aux responsables des écoles concernés dans la province éducationnelle Nord Kivu 2 des programmes conformes et actualisés. Dans un extrait recueilli par André Kitenge, Tembo Makupi explique.
Ce problème peut être lié, un, à la pédagogie. Le programme change du jour le jour au niveau de la RDC, au niveau de Kinshasa. Et nous avons toujours un grand retard par rapport au changement des programmes. Les uns utilisent le programme 2009, les autres 2010. Il y a déjà 2017, 2020. C'est pourquoi nous courons derrière un problème. Les uns sont en train d'utiliser, oui, les anciens documents. Et les autres utilisent le système éducatif actuel. Nous demandons aux associations des parents d'élèves de leur demander pourquoi il y a des chèques toujours. Nous détenons les programmes. Mais en entrant en profondeur, nous trouvons que non, les programmes de 2009. Et ce sont ces inspecteurs-là qui doivent nous unir et nous donner un programme national qu'il faut et la matière, les manières qu'il faut. Actuellement, nous avons un problème. Les problèmes du niveau programme national, les problèmes du niveau politique par rapport au programme. Il y a un programme qui arrive à l'ouest, mais nous, parvenir à trouver ce programme, ça demande 5 ans. C'est pour pourquoi nous avons une difficulté.
De son côté, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 rejette ces allégations. Selon lui, ces échecs sont principalement dus à la négligence de certains élèves et enseignants qui ne prennent plus les études au sérieux et ne s'adaptent pas aux nouveaux programmes scolaires. Le Kasaï oriental n'a que 3 professeurs femmes. Cette faible représentativité de la femme a été présentée à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Marie-Thérèse Sombo, lors de sa mission à Mbujimayi par le président de la conférence provinciale de chefs d'établissement COPSET. Le professeur Abbé Apollinaire Chibaka Chikongo a sollicité l'octroi des bourses aux femmes capables de préparer leur thèse. Écoutons à ces sujet l'abbé recteur Apollinaire Chibaka au micro de Esther Ndalafina.
Je voudrais seulement attirer votre attention sur 2 chiffres douloureux et dont la solution dépend largement de vous en votre condition de femme, de professeur, de médecin et de ministre. Excellence, le premier de ces 2 chiffres se rapporte au fait scandaleux qu'en 31 ans d'existence, cette université n'a produit qu'une seule femme professeur dans un corps académique de 42 membres. Même si les grandes universités de Kinshasa et de Lubumbashi sont en train de faire des avancées notables, cette situation n'est malheureusement pas exceptionnelle. Elle est le lot de tous nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire en milieu rural. Au Kasaï oriental, par exemple, nous n'avons que 3 femmes professeurs propres dans un corps qui va bientôt avoir 100 membres. Comme vous êtes femme et professeur, je souhaite que votre mandat de ministre soit celui de l'adoption d'une politique qui aide à pallier à cette insuffisance, notamment en instituant une bourse qui permette à l'université congolaise d'avoir davantage de femmes professeurs. Beaucoup de femmes capables n'y parviennent pas. Faute de moyens matériels suffisants, elles privilégient leur foyer et sacrifient leur carrière universitaire.
Assainissement de la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba sollicite l'accompagnement des services de l'armée. Ceci à quelques jours du lancement de la grande opération dénommée Coup de poing. Le patron de la capitale l'a dit ce samedi à l'issue de sa rencontre avec le chef d'état-major général des FARDC. Il a soutenu que Kinshasa, qui est à ce jour dans le chaos, veut s'appuyer sur les différents services de l'armée pour la réussite de ses actions. On écoute les explications de Daniel Bumba dans cet extrait proposé par Alain.
Bon, cette démarche était une séance de travail, vraiment pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans la réalisation de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous avons menée, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps, génie militaire, le service national, tout autre corps pourra nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, des questions de l'embouteillage, des questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je le dis justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable.
À Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, la police a renforcé les mesures de sécurité pour lutter contre le regain de la criminalité dans cette ville. Des bouclages suivis de fouilles des véhicules sur les voies publiques se font chaque semaine et les patrouilles sont intensifiées pour dénicher les malfrats. Une vingtaine des présumés bandits armés sont déjà aux arrêts, précise le commandant urbain de la police. La société civile de l'Ituri demande à la police de maintenir ses dispositions pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Isaac Remoyope nous en parle.
Des meurtres et des vols à main armée, des kidnappings étaient enregistrés presque chaque jour dans les 24 quartiers de la ville de Bounia, mais aussi des coups de feu étaient attendus chaque nuit et qui troublaient la quiétude de la population. Ces violences étaient attribuées par la police aux bandits armés, aux miliciens qui se dissimulent parmi la population, à certains militaires et policiers incontrôlés et aux groupes de jeunes dénommés Oulor. Pour mettre fin à ces criminalités, la police qui est déployée sur toutes les artères de la ville a renforcé les mesures de sécurité. Des bouclages, des contrôles des véhicules et des membres de l'équipage se font sur la voie public, mais aussi des patrouilles nocturnes sont intensifiées, précise le commandant de la police de Bounia. Au moins 25 présumés bandits ont été arrêtés pendant ces opérations et déférés devant les juridictions compétentes. Plusieurs sacs de chanvre ont été également saisis par la police. Le colonel Abeli Mwangu indique que ces opérations vont se poursuivre pour la protection des personnes et de leurs biens.
Avec les roadblocks que nous effectuons, on fouille systématiquement les véhicules, les motards et leurs passagers à dissuader. Et beaucoup de criminels nous ont fui ici. Nous avons arrêté un grand nombre aussi des bandits là, on a diminué un peu le nombre de ces arrêts. En tout cas, il y a du calme.
La coordination de la société civile lance un appel à la police de maintenir la pression sur ces hors-la-loi pour mettre fin à la criminalité à Bounia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Célébration hier vendredi de la Journée internationale des peuples autochtones dans le territoire de Kongolo, province du Tanganyika. Caritas Développement Kongolo a organisé une activité pour promouvoir la culture des peuples autochtones. Le point avec Paul Munanga.
C'est à travers des chants, des discours, des séinettes et la sensibilisation du public sur les peuples autochtones pygmées que la cérémonie s'est déroulée. Banza Motema, un pygmée du village Xavier, salue la commémoration de cette journée qui, d'après lui, prouve que les droits de son peuple sont désormais pris en compte. Aujourd'hui, nous sommes reconnus et pris en considération. Auparavant, nous étions considérés comme les pneus de réserve, mais nous avons évolué jusqu'à ce que nous serons au premier niveau. Le coordonnateur de la Caritas Développement Kongolo revient sur les activités que son organisation mène au bénéfice des peuples pygmées dans cette partie du Tanganyika. Abbé Joseph Tchenge.
Nous avons des projets dans l'agriculture, dans l'élevage et on accompagne aussi leurs enfants à l'école. On paye la scolarisation des enfants.
Une exposition mettant en avant les initiatives des peuples autochtones pygmées en matière de la préservation de la biodiversité a clôturé la manifestation. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
À l'Équateur, dans le territoire de Bikoro, dont le tiers de la population est composée de peuples autochtones, la journée a été consacrée à la promotion de la culture de ce peuple. Ainsi, le public a assisté aux chants et danses typiquement toi. Le groupe folklorique était venu notamment des villages d'Iembemoke, Iyanda, Lokando et de Mbouli. Le message du point focal des pygmées, territoire de Bikoro, Franck Mputela Mololo, dans cet extrait choisi par Paul Richard Malengela.
Nous, peuples autochtones pygmées, remercions le monde entier à travers l'Organisation des Nations Unies pour la promotion et l'intégration des peuples autochtones pygmées à la dynamique pour son développement intégral. Nous remercions également Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la promulgation de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Cependant, la majorité majorité des peuples autochtones pygmées vit à ce jour dans des conditions déplorables qui nécessitent un appui en termes d'assistance. Il s'agit par exemple de l'assistance aux soins médicaux et l'assistance en termes de microcrédit. Espérant que ce message retiendra l'attention des décideurs et d'autres personnes de bonne volonté, nous souhaitons une bonne fête à tous les peuples autochtones pygmées à travers le monde entier.
Actualité internationale.
Au Nigeria, mobilisation en baisse, mais colère en hausse face à la politique économique du président Tinubu. Le dixième et en principe dernier jour de mobilisation pour le mouvement contre la mauvaise gouvernance au Nigeria avait eu lieu hier vendredi. Contrairement au reste du pays, les rassemblements étaient réduits à Abuja en raison de la forte répression. Des organisations féministes ont choisi de prendre le relais. Deux femmes ont décidé d'organiser un sit-in à l'entrée du stade Abiola à Abuja.
L'invité.
Nous recevons comme invité le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Le lieutenant-colonel Kedagni Mensah nous parle des opérations de la force de la MONUSCO, cadrant avec le mandat de la protection des civils, notamment dans le territoire de Djougou. C'est dans la province de l'Ituri. Le lieutenant-colonel Kedagni Mensah s'entretient avec Bernard Danyangi.
Lieutenant-colonel Kedagni Mensah, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous vous recevons toujours dans le cadre des opérations de la force de la MONUSCO. Nous allons commencer par l'Ituri, où nous avons appris que la MONUSCO a contribué à la libération d'un homme détenu par le groupe armé Codeco. C'était quand et dans quelles circonstances?
Merci, monsieur le journaliste. Le 30 juillet 2024, le groupe Codeco a arrêté un homme dans le village de Dera, situé à 23 km environ au nord de la base de MONUSCO, à Fataki, au sein du groupement de Djoukpa dans le territoire de Djougou. Cet incident a suscité beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté d'Ira et qui nécessite une intervention urgente pour la libération de ce dernier. Sollicité, la force MONUSCO s'est engagée à la libération de ce dernier et est ainsi que le 2 août 2024, elle a organisé une réunion avec les leaders villageois membres de la communauté Lindou autour du chef du responsable du village de Fataki. L'objectif principal de cette réunion était de négocier et de faciliter la libération de cet homme à travers une diplomatie constructive et communautaire. Grâce à cette stratégie basée sur le dialogue et la négociation menée lors des réunions avec les principaux dirigeants, l'homme détenu a été finalement libéré le 3 août 2024. Cette libération a non seulement atténué les préoccupations vives qui existaient au sein de la communauté, mais également a renforcé les relations communautaires permettant ainsi de démontrer l'impact de la diplomatie et du dialogue dans les résolutions des problèmes dans les conflits.
Alors, à part ça, il y a aussi l'évacuation médicale des blessés civils que la force de la MONUSCO a conduite après l'altercation qui a eu lieu entre les factions de groupes armés Zaïre, dont d'ailleurs les meneurs ont été appréhendés par les membres du bureau local de la police nationale congolaise dans la région de Djina. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça?
Le 4 août 2024, la force de la MONUSCO s'est rapidement déployée à Djina après avoir reçu des alertes indiquant que des éléments du Zaïre auraient encerclé le bureau de la police nationale congolaise dans la zone de Djina. En réponse et en étroite collaboration avec les FADC, la MONUSCO a investi les lieux pour dissuader les éléments du groupe Zaïre et assurer la protection des civils. La patrouille de la MONUSCO s'est entretenue avec des résidents locaux et des agents de la PNC qui ont signalé qu'un affrontement avait eu lieu entre les deux factions au cours duquel deux personnes ont été blessées. La situation s'est envenimée lorsque les éléments du Zaïre ont encerclé le bureau de la police nationale congolaise alors que celle-ci tenait d'appréhender les responsables de cet incident. Ayant aperçu la patrouille de la MONUSCO, les éléments du groupe Zaïre ont commencé à se retirer des lieux. La patrouille a donc pris le contrôle du bureau de la police nationale congolaise pour la sécuriser. Dans le but de fournir une assistance humanitaire aux blessés, elle a facilité le transport des blessés en sécurité de Djina à la barrière de Iga. De là, ils ont été transférés de l'hôpital Nzi pour un traitement médical approprié.
Lieutenant-colonel Kedagni Mensah, nous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que prend fin à ce journal coordonné par Askin Zigbia Tayoro, supervisé par Alain Irung Mouchinge. Il a été mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Merci de nous avoir suivis.